alors que la colonne s'éloignait avec son escorte d'abrutis, et Dorian lâcha d'un ton neutre. « Beaucoup d'hommes se demandent quand nous partirons pour le sud. Les rumeurs vont bon train. » Du coin de l'œil, il évalua l'humeur de son chef. « J'ai remarqué que les maréchaux ferrants venaient contrôler les fers des attelages des chariots. « Nous partirons quand le moment sera venu, » dit Matt. « Inutile d'avertir Samael que nous arrivons. » Et Dorian coula à son chef un regard dubitatif. Ce Théarien n'était pas un imbécile. Non que Nalessean en fût un, parfois il se montrait seulement un peu trop zélé. Mais Edorion avait un esprit plus affûté. Par exemple, Nalessean n'aurait jamais remarqué les maréchaux ferrants. Si la maison Aldiaia n'avait pas primé la maison Celorna, Matt aurait volontiers nommé Edorion à la place de Nalessean. Ces idiots de nobles et leur obsession de la hiérarchie. Non, Edorion, décidément, avait plus qu'un pois chiche dans le crâne. Il savait que la nouvelle du départ de la compagnie serait immédiatement suivie par l'envoi d'informations via le trafic fluvial, et sans doute aussi par pigeons voyageurs. Même s'il avait cru en sa chance insolente, au point que sa tête en éclate comme un melon, Matt n'aurait pas misé un sou sur l'absence d'espions ennemis à Myron.
« Selon une rumeur, le seigneur dragon était en ville hier, » dit Edorion, baissant la voix autant que le bruit ambiant le lui permettait.
« Le grand événement hier, c'est que j'ai pris mon premier bain depuis une semaine. Bon, si on pressait un peu le pas. Déjà qu'on risque d'en avoir jusqu'au soir pour finir cette inspection. Alors si on traîne... »
Matt aurait donné cher pour savoir d'où venait cette rumeur. L'affaire remontait à une demi-journée, et il n'y avait pas eu de témoin. Aux petites heures de l'aube, une sorte de trait lumineux était apparu dans sa chambre du cerf doré. En le voyant, Matt était jeté en travers de son lit à baldaquin, une botte à demi retirée et l'autre encore à un pied. D'instinct, il avait dégainé le couteau dissimulé dans son dos. Puis il avait compris de quoi il s'agissait. Quelques secondes plus tard, Rand était sorti d'un de ces maudits portails, des fichus trous dans le néant, et il venait, semblait-il, de Kemlin, d'après ce que Matt avait vu dans l'ouverture, avant qu'elle se referme. Il était vraiment surprenant que Rand déboule ainsi au petit matin, et sans un aïeul, dans la chambre de son ami. En y repensant, Matt en avait encore des sueurs froides. S'il avait été au mauvais endroit, le portail de malheur aurait pu le couper en deux. Bon, vraiment, il n'aimait pas le pouvoir de l'unique. De plus, tout ce qui était arrivé lui avait paru étrange.
« Hâte-toi lentement, Matt !» avait dit Rand en faisant les 100 pas dans la chambre, sans jamais regarder dans la direction de son ami.
« Il faut absolument qu'il s'en aperçoive. Tout dépend de ce point-là. »
Le visage ruisselant de sueur, Rand serrait bizarrement les dents. Assis sur son lit, Matt avait fini de retirer sa botte avant de la laisser tomber sur le petit tapis que maîtresse d'Alvin avait mis à sa disposition.
« Je sais !»
répondit-il en massant sa cheville, qu'il avait cognée contre un des montants du lit.
« J'ai participé à l'élaboration de ce plan, au cas où tu l'aurais oublié. Comment sait-on qu'on est amoureux d'une femme, Matt ?»
Rand n'avait pas cessé de marcher en long et en large, comme si son discours s'était enchaîné le plus logiquement du monde.
« Au nom de la fosse de la perdition, comment le saurais-je ? C'est un piège dans lequel je ne suis jamais tombé. Pourquoi cette question ?»
Rand avait simplement haussé les épaules.
« Je vais en finir avec Samael. » Je l'ai juré, je le dois à nos morts. Mais où sont les autres rejetés? Il faut que je les extermine. Un à la fois, cependant.
Non sans effort, Matt parvint à ne pas laisser filtrer les doutes qui l'assaillaient. Ces derniers temps, on ne savait jamais ce que Rand pouvait se mettre en tête.
Il y a des fidèles du dragon au Mourandi, Matt. En Altara aussi. Des hommes qui me sont loyaux. Quand Lilian sera conquis, l'Altara et le Mourandi tomberont comme des frimures. Je contacterai des fidèles du dragon au Tarabon et en Arad-Doman. Et si les capes blanches tentent de m'empêcher d'entrer en Amadicia, je les écraserai. Le prophète a préparé le Géaldan à mon avènement, et il a commencé à faire de même en Amadicia. Tu t'imagines, Massema, le prophète? Le Saldaea se ralliera à moi, Bachiri en est sûr. Toutes les terres frontalières le feront. Il le faut! Je vais réussir à unir les nations avant l'ultime bataille, Matt. Oui, j'y arriverai!
Rand parlait d'un ton fébrile, comme s'il s'était exalté au fil de sa tirade.
« C'est sûr, vieux !»
avait soufflé Matt en posant sa seconde botte à côté de la première.
« Mais une chose à la fois, non ?»«
Aucun homme ne devrait entendre dans sa tête la voix de quelqu'un d'autre !» avait marmonné Rand. Alors qu'il retirait une de ses chaussettes de laine, Matt s'était pétrifié. Très étrangement, dans ce contexte, il s'était aperçu qu'il songeait aux chaussettes, se demandant s'il pourrait les porter à son réveil.
Rand savait en partie ce qui s'était passé de l'autre côté du Terangréal, à Ruidéan. En tout cas, il avait compris que c'était de là que Matt tenait ses connaissances stratégiques. Cela dit, Rand ne savait pas tout. Par exemple, au sujet des souvenirs appartenant à d'autres hommes. Sans remarquer le trouble de son ami, Rand s'était passé une main dans les cheveux avant de reprendre.
On peut l'abuser, Matt. Samael ne voit que ce qu'il a devant le nez. Mais y a-t-il un trou de souris par où il peut se glisser? Si nous commettons une erreur, des milliers de gens mourront. Des dizaines de milliers, même. Je sais qu'il y aura des centaines de victimes, mais je refuse de compter en milliers.
Matt eut une grimace si féroce que le colporteur qui tentait de lui vendre un couteau, avec un manche incrusté d'éclats de verre coloré qu'il qualifiait de gemme, manqua laisser tomber son trésor tout en filant se fondre dans la foule. La rencontre avec Rand avait continué sous ses auspices. L'invasion de Liliane, les rejetés, les femmes. Au fait, c'était lui qui savait s'y prendre avec elle. Oui, lui et Perrine. L'ultime bataille, les promises de la lance. Sans compter des allusions auxquelles Matt n'avait rien compris. Et bien sûr, tout ça sans écouter ses réponses, ni prendre le temps d'attendre qu'il les formule le plus souvent. Entendre Rand parler de Samael comme s'il le connaissait avait été très perturbant. Bien sûr, le pauvre garçon était destiné à devenir fou. Mais s'il en était déjà à ce point... Et que signifiait cette histoire, au sujet des autres idiots qu'il réunissait autour de lui? Des types qui aspiraient à canaliser le pouvoir, plus Mazrim Taïm, qui en était déjà capable. Rand avait mentionné ça en passant. Mazrim Taïm, un fichu faux dragon, formait ses maudits disciples, ou quel que soit le nom qu'il leur donnait. Quand tous ces hommes deviendraient cinglés, Matt espérait être au moins à 1000 lieues de là. Hélas, il n'avait pas plus le choix qu'une feuille prise dans un cyclone. Il était Taveren, certes, mais Rand l'était encore plus que lui. Dans les prophéties du dragon, il n'y avait pas un mot sur Matt Cotton. Pourtant, il était piégé comme une hermine sous une clôture. Comme il aurait aimé n'avoir jamais vu le corps de Valère. L'air maussade, Matt inspecta à pas forcés la dizaine d'établissements suivants, toujours en décrivant un cercle dont le cerf doré était le centre. Ses auberges et ses tavernes se révélèrent strictement semblables aux précédentes. Des tables serrées les unes contre les autres, où des hommes buvaient, jouaient aux dés ou se défiaient au bras de fer. Alors que des musiciens s'échinaient à jouer, le plus souvent en vain, les bras rouges étouffaient les rixes dans l'œuf. Dans une auberge, un autre trouvère déclamait des passages de la Grande Quête du Corps, une saga très populaire, même quand il n'y avait pas de quêteurs dans la salle. Dans une autre, une petite femme aux cheveux clairs interprétait une chanson plutôt leste, que son regard plein d'innocence rendait encore plus audacieuse. L'humeur de Matt était toujours à l'orage quand il sortit du corps d'argent, un nom parfaitement idiot, où officiait la chanteuse faussement ingénue. Peut-être parce qu'il était en pétard, il se précipita vers l'attroupement qui s'était formé devant une autre auberge et d'où montaient des cris. Si des soldats étaient impliqués, les bras rouges interviendraient. Pourtant, Matt se frayait un passage dans la foule. Rand qui perdait la tête, le laissant seul dans la tempête. Taïm et les autres crétins prêts à le suivre dans la folie. Samael qui attendait en Iliane. Les autres rejetés étant la lumière seule savaient où, tous crevant sans nul doute d'envie de décoller de ses épaules la tête d'un certain jeune flambeur. Dans tout ça, il ne mentionnait qu'en passant ce que lui feraient les Aes Sedai si elle lui remettait la main dessus. Celle qui en savait trop long, en tout cas. Et tout le monde qui croyait que Matt Rimcotton allait devenir un fichu héros. Quand il ne pouvait pas fuir un combat à toutes jambes, Matt essaya en principe de s'en tirer par la négociation. Mais pour l'heure, il brûlait d'envie de flanquer son poing dans la figure de quelqu'un. Hélas, ce qu'il découvrit ne correspondait à rien de ce qu'il attendait. Une foule de citadins, des Kyrianiens courts sur pattes vêtus de couleurs ternes et des Andoriens plus grands et plus colorés, entouraient mornement deux grands types minces à la moustache recourbée. Portant des vestes longues en soie brillante du Murandi, les deux hommes arboraient chacun une épée au pommeau et au quillon doré. L'un, en veste rouge, souriait en regardant son compagnon, en veste jaune, secoué par le col un gamin qui arrivait à peine à la ceinture de Matt. On eût dit un chien tenant un rat dans sa gueule. Maîtrisant son agacement, Matt se força à ne pas oublier qu'il ignorait la cause de cet incident.
« Du calme avec le petit !»
dit-il en posant une main sur la manche jaune du type.
« Qu'a-t-il fait pour mériter ça ?»«
Il a touché mon cheval !»
répondit l'homme avec un accent de Mindéa à couper au couteau. Les gens de Mindéa se vantaient, oui, se vantaient, d'être les plus irascibles du Murandi.
Je vais briser le cou de ce bouseux, lui tordre le...
Sans un mot de plus, Matt propulsa l'embout de sa lance entre les jambes du type.
Le Mourandien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les yeux révulsés, il tomba à genoux, sa victime en profitant pour déguerpir, puis s'écroula face contre terre.
« On dirait que tu ne lui tordras rien, mon gars. »
Bien entendu, l'affaire ne s'arrêta pas là. Le crétin en veste rouge tenta de dégainer son épée et réussit à tirer au clair quelques pouces d'acier avant que Matt lui fracasse le poignet avec sa lance. L'abruti lâcha son épée, mais essaya de dégainer de l'autre main le couteau qu'il portait à la ceinture. Promptement, mais sans y aller trop fort, Matt lui floqua un coup de hampe derrière l'oreille, l'envoyant rejoindre son compagnon sur le sol.
« Fichu débile !»
pensa Matt, sans savoir si c'était son adversaire ou lui qu'il qualifiait ainsi. Des bras rouges, 5 ou 6, fendirent la foule de curieux. Des cavaliers théariens, mal à l'aise dans leurs bottes montantes dès qu'ils étaient à bas de leur selle, le brassard écrabouillant la manche bouffante noire et or de leur veste. Et Dorian avait intercepté le gamin au vol. Un garçonnet de 6 ou 7 ans, qui remuait ses orteils nus dans la poussière et tentait à intervalles réguliers d'éprouver la solidité de la prise du théarien. Émacié, l'air boudeur, un nez en forme de patate, une bouche trop grande et des oreilles en chou-fleur, c'était l'enfant le plus laid que Matt eût jamais vu. Au trou qui constellait ses vêtements, on pouvait déduire que c'était un réfugié. Miteux, certes, mais inoffensif.
« Règle cette histoire, Arnan !»
dit Matt à un bras rouge au menton en galoche qui arborait sur la joue gauche un tatouage, minimaliste, censé représenter un faucon. La mode se répandait dans la compagnie, mais la plupart des hommes se limitaient à des parties du corps le plus souvent couvertes.
« Trouve le pourquoi et le comment de cette histoire !»
précisa Matt à Arnan, qu'il avait choisi parce qu'il avait l'air patient, et parce qu'il tenait lieu de chef au groupe de bras rouges.
« Puis éjecte ces deux idiots de la ville !»
Quelle que soit la raison de l'incident, les types méritaient au minimum ce châtiment. Un Mourandien en veste sombre, maigre comme un clou, fendit le cercle de curieux et vint s'agenouiller à côté des deux imbéciles assommés par Matt. Veste jaune émettait d'étranges grognements, tandis que veste rouge, la tête entre les mains, éructait ce qui semblait bien être des imprécations. Le nouveau venu parvint à faire plus de bruit qu'eux.
« Seigneur Perse, Seigneur Cullen, vous a-t-on tué ?»
L'homme tendit vers Matt ses mains tremblantes.
« Noble seigneur, ne les abattez pas. Voyez, ils ne peuvent pas se défendre. Et ce sont des quêteurs du corps. Je suis Padri, leur valet. Il s'agit de héros, noble seigneur. »«
Je ne vais abattre personne, »
coupa Matt, dégoûté.
« Mais avant le coucher du soleil, je veux que ces héros soient en selle et hors de la ville. Je déteste qu'un adulte menace de briser le cou d'un enfant. Le coucher du soleil, c'est compris ?»
« Noble seigneur, ils sont blessés. Ce n'est qu'un fils de paysan, et il molestait le cheval du seigneur Paers. »« J'étais monté en selle !»
cria le gamin.
« Je ne le mol... Enfin, je ne faisais pas ce qu'il dit !»
Matt eut un sourire sans joie.
« On ne brise pas le cou d'un garçon parce qu'il est monté sur un cheval. Même un fils de paysan. Débarrasse-moi de ces deux bouffons, Padri, ou c'est moi qui leur briserai l'échine. »
Matt fit un signe à Arnan, qui fit lui-même un signe aux autres bras rouges. Comme les portes étendards, les chefs sortis du rang, parfois appelés chefs de file, ne levaient jamais le petit doigt. Les bras rouges soulevèrent à demi Cullen et Paers, puis les traînèrent sans ménagement. En se tordant les mains, Padri les suivit et sa litanie recommença.
« Enfin, ils ne sont pas en état de chevaucher, et ce sont des quêteurs du corps !»
Matt s'avisa qu'Edorion n'avait pas lâché le petit fauteur de trouble. L'incident étant clos, les citadins s'éparpillaient, aucun n'accordant l'ombre d'un regard aux petits réfugiés. Ayant leurs propres enfants à nourrir, ils s'échinaient déjà assez comme ça.
« Petit, »
fit Matt,
« à force de monter sur le cheval d'un inconnu, tu risques de gros ennuis. Par exemple, les talons de cet idiot auraient pu te désarçonner, puis t'écrabouiller à coups de sabot, jusqu'à ce qu'on ne distingue plus ta tête de tes pieds. »«
C'était un hongre !»
L'enfant éprouva de nouveau la prise des Dorion et fit la moue en constatant qu'elle était toujours aussi ferme.
« Un hongre, oui. Et il ne m'aurait pas fait de mal. Les chevaux même. Et je ne suis pas un petit. J'ai 9 ans, et mon nom c'est Olver. »«
Olver ?»«
9 ans, cet avorton ?» Au fond, c'était possible. Matt avait du mal à estimer l'âge des enfants, surtout les gosses kérieniens.
« Alors, Olver, où sont ton père et ta mère ?»
Matt regarda autour de lui, mais les réfugiés passaient à côté du gamin sans baisser les yeux sur lui, comme les citadins.
« Où sont-ils, Olver ? Il faut que je te conduise auprès d'eux. »
Olver se mordit la lèvre. Une larme roulant sur sa joue, il écrasa rageusement.
« Les Aiel ont tué mon papa. Un de ces... Shadows, ou un nom comme ça. Maman disait qu'on allait vivre en Andorre, dans une ferme, avec des chevaux.
Où est-elle ?
Elle est tombée malade. Je l'ai enterrée dans un coin où il y avait quelques fleurs. »
En larmes, Olver se débattit violemment entre les mains des Dorion.
« Laissez-moi partir ! Je peux me débrouiller tout seul ! Laissez-moi partir ! » !»«
Occupe-toi de lui jusqu'à ce qu'on lui trouve quelqu'un, » dit Matt à Edorion.
« Moi ?»
gémit le Théarien, très occupé à éviter les coups du gamin sans pour autant le lâcher.
« Qu'est-ce que je peux bien faire de ce mulot qui se prend pour un lion ?»« Pour commencer, lui donner à manger. »
Matt plissa le nez. À l'odeur de fumier qu'il dégageait, le gamin avait dû passer pas mal de temps dans la stalle du fameux Hongre, couché sur la paille.
« Ensuite, lui faire prendre un bain. Il empeste. »«
Ne parlez pas comme si je n'étais pas là !»
s'indigna Olver. Il se frotta les joues, ses larmes lui permettant d'étaler différemment la crasse.
« Pas comme si j'étais pas là !»
Matt sursauta, puis il se pencha vers l'enfant.
« Désolé, Olver. Quand j'étais petit, je détestais ça aussi. Maintenant, écoute-moi. Tu pues vraiment. Donc Edorion, mon ami, va te conduire au Cerf Doré, où maîtresse Dalvin te fera préparer un bain. »
Olver se rembrunit encore.
« Si elle proteste, dis-lui que l'idée est de moi. Elle ne pourra pas t'empêcher de prendre un bain. »
Voyant l'enfant ouvrir de grands yeux, Matt se retint à grand-peine de sourire, une réaction qui aurait gâché son effet. Olver n'avait certes aucune envie de prendre un bain, mais si on suggérait que quelqu'un puisse avoir la prétention de l'en empêcher...
« Obéis à Edorion. C'est un vrai seigneur de Théar, tu sais. Il te dégotera un bon repas chaud et des vêtements sans trous, sans parler d'une paire de chaussures. »
Inutile d'ajouter une famille d'accueil. Maîtresse Dalvin se chargerait de ça. S'il se faisait tirer l'oreille, quelques couronnes la convaincraient.
« Je n'aime pas les Théariens !»
fit Olver. Il regarda Edorion, qui avait les yeux fermés, et marmonnait dans sa barbe.
« C'est un vrai seigneur ? Et toi aussi ?»
Avant que Matt ait pu répondre, il vit Estéan arriver au pas de course, son visage tout cabossé lustré de sueur. Sa cuirasse, tout aussi cabossée, ne gardait que de lointains souvenirs de ses glorieuses dorures. Et les galons de ceinture rouge, sur les manches jaunes de sa veste, semblaient usés jusqu'à la corde. En d'autres termes, il n'avait pas l'allure d'un fils de seigneur, et surtout pas du seigneur le plus riche de Théar. Mais à vrai dire, il ne l'avait jamais eu.
« Matt !»
haleta-t-il, en tentant d'écarter de son front une mèche de cheveux plats et raides.
« Matt, près du fleuve ! Quoi donc ?»
s'écria le jeune flambeur, agacé par la question d'Olver. Si ça continuait, il finirait par porter dans le dos une inscription « Je ne suis pas un fichu seigneur. »
« Samael, les Shaido, les gardes de la reine, les fichus lions blancs.
Un bateau, Matt. Un très gros bateau. Du peuple de la mer, je crois. »
Très peu probable, ça. En principe, les Atan Mieré, quand ils quittaient la haute mer, ne se risquaient jamais au-delà du port le plus proche. Cela dit, eh bien, le long du fleuve Erinin, en direction du sud, il n'y avait pas beaucoup de villages. Avant que la compagnie ait atteint Théar, les vivres transportés dans les chariots risquaient d'être épuisés. Matt avait déjà loué des barges qui suivraient la colonne, mais un plus gros bâtiment ne serait pas inutile.
« Edorion, occupe-toi d'Olver. Et ne tire pas cette tête-là. Estéan, montre-moi ce navire. »
Hochant frénétiquement la tête, Estéan serait reparti au pas de course si Matt ne l'avait pas saisi par la manche pour le ralentir. D'une nature impulsive, le pauvre garçon apprenait lentement. Une configuration qui lui avait déjà valu de coûter 5 fois la matraque de maîtresse Dalvin. Alors que Matt approchait du fleuve, le pourcentage de réfugiés dans la foule augmenta nettement. Qu'ils aillent vers l'Erinin ou qu'ils en reviennent, tous marchaient comme des spectres. Sur les longs quais en bois goudronné, une protection contre l'humidité, plusieurs grands bacs étaient arrimés. Mais on avait retiré les rames et il n'y avait pas un homme d'équipage en vue sur l'un d'eux. Les seuls bateaux sur lesquels on distinguait de l'activité étaient des barges, une demi-douzaine, et quelques deux mâts qui faisaient brièvement escale dans le port avant de continuer à descendre ou à remonter le fleuve. Sur les barges louées par Matt, les matelots aux pieds nus bougeaient au ralenti. Ces embarcations étaient chargées au maximum et prêtes, selon leur capitaine, à appareiller dès que Matt en donnerait l'ordre. Sur le fleuve, des bateaux allaient et venaient sans cesse, de lourds bâtiments à la proue renflée et aux voiles carrées, suivant ou croisant des navires plus petits et plus rapides, dotés de voiles triangulaires. Mais il n'y avait aucun trafic fluvial entre Maeron et Haringill, la ville fortifiée sur laquelle battait au vent l'étendard au lion blanc du royaume d'Andorre. Le même étendard flottait naguère sur Maeron, les soldats andoriens qui tenaient la ville se montrant alors fort réticents à laisser entrer la compagnie de la Main Rouge. Rand avait conquis Kaemlyn, certes, mais son autorité ne s'étendait pas aux gardes de la reine présents en ville, et encore moins aux unités créées par Gabriel, comme les lions blancs. À présent, ces lions étaient quelque part dans l'Est. En tout cas, c'était par là qu'ils avaient fui, et les rumeurs au sujet d'exactions de brigands venaient peut-être d'eux. Et les autres militaires andoriens avaient traversé le fleuve après quelques rudes escarmouches contre la compagnie. Depuis, plus personne n'était passé d'une rive à l'autre. Matt repéra immédiatement le bateau du peuple de la mer qui mouillait au milieu du fleuve. Très caractéristique, il était plus long et plus haut que tous les navires fluviaux, mais il restait cependant profilé et très élégant avec ses deux mâts inclinés. Des silhouettes à la peau noire évoluaient dans le gréement, les hommes en pantalon anthracite ample étant pour la plupart torse nus, alors que leurs compagnes portaient un chemisier de couleur vive. La moitié environ de l'équipage était composée de femmes. Repliées sur les vergues, les grandes voiles carrées n'étaient cependant pas serrées au maximum, ce qui permettrait de les déferler en quelques minutes.
« Estéan, » dit Matt, « trouve-moi un canot et des rameurs. Plus vite que ça !»
Dire qu'Estéan avait besoin d'un ordre pour des évidences pareilles. Se passant une main dans les cheveux, il prit d'abord l'air ahuri, puis se décida enfin à partir au pas de course. Quand il eut atteint le bout d'un des quais, Matt appuya sa lance sur son épaule et sortit la longue-vue qu'il gardait dans la poche de sa veste. Dès qu'il regarda dans le cylindre de cuivre, le bateau parut lui sauter au visage. Les marins semblaient attendre quelque chose, mais quoi? Si certains regardaient en direction de Maeron, beaucoup avaient la tête tournée vers Haringill, y compris les hommes et les femmes, la maîtresse des voiles et ses officiers sans doute, qui se tenaient sur le gaillard d'arrière surélevé. Déplaçant sa longue-vue vers la rive opposée du fleuve, Matt vit qu'un long canot étroit, propulsé par des rameurs noirs, fondait sur le navire. Sur un des quais d'Haringill, la copie conforme de ceux de Maeron, Matt remarqua une agitation inhabituelle. Des hommes en veste rouge, à col blanc au plastron brillant, l'uniforme des gardes de la reine, étaient en train d'accueillir des visiteurs à l'évidence débarqués du canot. Apercevant deux parasols rouges à franges, dont l'un un double pavillon, Matt siffla longuement entre ses dents. Parfois, ses souvenirs parasites se révélaient très utiles. Le parasol double était l'attribut de la maîtresse des vagues d'un clan, l'autre appartenant à son maître de l'épée.
« J'ai trouvé un canot, Matt !»
annonça Estéan, qui revenait de sa mission à bout de souffle.
« Et des rameurs ?»
Matt braqua de nouveau la longue-vue sur le bateau. À l'activité qui régnait sur le pont, il supposa qu'on était en train de hisser à bord le canot, sur le flanc invisible du bâtiment. Faisant tourner le cabestan, des marins remontaient l'ancre, tandis que d'autres déployaient les voiles.
« On dirait bien que je ne vais pas en avoir besoin, de ton canot, »
marmonna Matt. Sur l'autre rive, la délégation d'Ata Admiré et de son escorte de garde de la reine remontait déjà le long du quai. Tout ça n'avait aucun sens. Le peuple de la mer à plus de 400 lieues de la mer? Et dans la hiérarchie, seule la maîtresse des navires était supérieure à une maîtresse des vagues, un maître de l'épée n'ayant, lui, de compte à rendre qu'au maître des lames. Oui, s'il se fiait aux souvenirs qui peuplaient sa mémoire sans être les siens, ce que Matt venait de voir n'avait aucun sens. Mais c'était de vieux souvenirs. Et on en savait presque aussi peu sur les Ata Admiré que sur les Aiel. Alors qu'il avait fréquenté des guerriers du désert, ce que Matt savait avec certitude sur eux aurait tenu sur la moitié d'une feuille de parchemin. Mais peut-être qu'une personne familière du peuple de la mer actuelle aurait pu trouver une explication logique à ces étranges événements. Alors qu'on finissait à peine de hisser l'ancre sur le gaillard d'avant, les voiles du bateau se gonflaient déjà. Quel que soit le motif de cette hâte, il ne ramènerait à l'évidence pas le bâtiment vers la mer. Car celui-ci, gagnant très vite de la vitesse, s'éloigna vers l'amont du fleuve, en direction de l'embouchure de la rivière Algenia, à une ou deux lieues au nord de Maeron. En ce qui concernait Matt, l'incident était clos. Après avoir jeté un dernier regard mélancolique au bateau, qui aurait transporté plus de vivres que toutes les barges réunies, le jeune homme remit la longue-vue dans sa poche. Haletant toujours, Estéan le regardait fixement.
« Dis aux rameurs qu'ils peuvent partir !»
lâcha Matt, accablé par la passivité du Théarien. Estéan s'éloigna en grommelant et en se passant une main dans les cheveux. Dans le lit du fleuve, Matt nota qu'il y avait plus de vases que lors de sa dernière visite, quelques jours plus tôt. une étroite bande venue s'ajouter à la boue desséchée et craquelée, qui bordait déjà l'eau sur un bon pas. Mais c'était la preuve qu'un cours d'eau aussi grand que l'Erinine continuait à s'assécher lentement. Mais ça non plus, ça ne concernait pas Matt. Et de toute façon, il n'y pouvait rien. Tournant le dos au fleuve, il s'éloigna afin d'aller reprendre sa tournée des tavernes et des auberges. En ce jour, il était particulièrement important que rien ne semble sortir de l'ordinaire. Au coucher du soleil, de retour au cerf doré, Matt recommença à danser avec Betsy, sans son tablier, tandis que les musiciens s'efforçaient de jouer le plus fort possible. Des danses locales, cette fois, les tables poussées dans les coins afin de laisser de la place pour 7 ou 8 couples. Le soir, une certaine fraîcheur revenait, enfin comparée à la fournaise de la journée. Cela dit, on transpirait encore à grosses gouttes. Alors que les bancs étaient pris d'assaut par des clients qui riaient fort et levaient haut le coude, les serveuses s'affairaient à poser devant eux des assiettes de ragoût de mouton au navet ou de soupe de gruau, et à ne jamais laisser se vider les chopes et les gobelets. Assez bizarrement, ces femmes semblaient tenir la danse pour une sorte de pause dans leur travail. En tout cas, chacune sourit quand vint son tour de retirer son tablier et de se lancer sur la piste, après avoir épongé la sueur qui ruisselait sur son front, en vain, puisqu'elle était de nouveau en nage 10 secondes plus tard. Maîtresse Dalvin avait-elle établi une rotation prédéterminée? Si c'était le cas, Betsy n'y participait pas. Ne savant du vin qu'à Matt, elle dansait exclusivement avec lui, tout ça sous le regard béat de l'aubergiste, rayonnante comme si elle assistait aux noces de sa fille. Une jubilation qui finit par mettre Matt mal à l'aise. Alors que Betsy dansa avec lui jusqu'à ce qu'il ait trop mal aux pieds et aux mollets pour continuer, la jeune femme ne cessa pas un instant de sourire, les yeux brillants d'extase. Sauf quand ils s'arrêtaient pour reprendre leur souffle. Enfin, pour que le jeune homme le reprenne. Car sa belle n'en avait aucun besoin. Lors de ses pauses, en revanche, Betsy ne manqua jamais de recommencer à jacasser à la vitesse d'un cheval au galop. Le même phénomène se reproduisit chaque fois que Matt tenta de l'embrasser. Alors qu'elle tournait la tête, se lançant dans une tirade ou une autre, il se retrouvait à lui baiser l'oreille ou les cheveux au lieu des lèvres. À chacune de ces occasions, Betsy manifesta une profonde surprise, à se demander si elle était complètement stupide ou supérieurement intelligente. Alors que 2 heures du matin n'allaient pas tarder à sonner, Matt annonça qu'il avait assez dansé pour la soirée. Déçue, car elle semblait prête à gambiller jusqu'à l'aube, Betsy le gratifia d'une moue boudeuse. Elle ne fut pas la seule à réagir ainsi, alors que la doyenne des serveuses, appuyée contre un mur d'une main, se massait un pied de l'autre, les autres jeunes femmes paraissaient dans la même disposition enthousiaste que leur amie. En revanche, les hommes semblaient proprement lessivés. Alors que certains, un sourire figé sur les lèvres, se laissaient encore tirer vers la piste, la majorité, d'un signe de la main, déclinait les invitations de ces dames. Matt s'en étonna, puis songea que les mâles, sur une piste de danse, faisaient l'essentiel du travail. Les portées, les pirouettes. Plus légères, les femmes dépensaient en outre moins d'énergie en sautillant. En observant une solide serveuse qui faisait tourbillonner le pauvre Stéane, alors que le gaillard, contre toute attente, dansait plutôt bien, le jeune flambeur haussa les épaules, puis posa dans la paume de Betsy une couronne andorienne, histoire qu'elle s'achète quelque chose qui lui ferait plaisir. La jeune femme regarda un moment la pièce, puis elle se hissa sur la pointe des pieds et posa sur les lèvres de Matt un baiser aussi léger que la caresse d'une plume.
Quoi que tu fasses, je ne te pendrai jamais. Tu danseras encore avec moi demain ?
Avant que Matt ait pu répondre, elle éclata de rire. Puis se détourna et le regarda par-dessus son épaule, tout en tentant d'entraîner Dorian sur la piste. Maîtresse Dalvin intercepta le couple, fourra un tablier dans les mains de Betsy et lui indiqua la direction de la cuisine. En boitillant, Matt gagna la table poussée contre le mur où Talmanès, Daerid et Nalesséan avaient quand même réussi à s'asseoir. La tête baissée sur sa coupe de vin, Talmanès semblait y chercher de profondes vérités philosophiques. Tout sourire, Daerid regardait Nalesséan s'efforcer de conduire une serveuse châtaine aux yeux gris joliment rondelette, sans pour autant lui avouer qu'il avait les jambes en compote.
« Départ pour le sud aux premières lueurs de l'aube !»
annonça Matt en s'appuyant des deux poings sur la table.
« Vous devriez vous mettre au préparatif. »
Les trois hommes écarquillèrent les yeux.
« Il ne reste que quelques heures !»
protesta Talmanès.
« Même pas le temps d'aller récupérer tous les ivrognes dans les auberges et les tavernes, »
grogna Nalesséan.
« Aucun de nous ne dormira cette nuit, » soupira Daerid.
« Si, moi, »
dit Matt.
« L'un de vous me réveillera dans 2 heures. Aux premières lueurs de l'aube, en route !»
Ce fut ainsi que Matt, alors que le soleil pointait à peine à l'horizon, se retrouva sur le dos de Pépin, son hongre, avec sa lance en travers des genoux, son arc débandé accroché à l'arrière de sa selle, une lourde dette de sommeil et une barrière derrière les yeux.
Dans cet état comateux, il regarda la compagnie de la main rouge quitter Meiron. 6 000 hommes, une moitié à cheval et l'autre à pied, tous faisant assez de bruit pour réveiller les morts. Malgré l'heure matinale, des gens s'alignaient des deux côtés des rues, et on apercevait des têtes derrière presque toutes les fenêtres. L'étendard à franges rouges de la compagnie, une main écarlate sur fond blanc, arborait la fière devise de ses guerriers. « Dovie Andis et Ovias Again. » Il est temps de lancer les dés. Nale Sehan, Daerid et Talmanès chevauchaient avec l'étendard, au son d'une quinzaine de trompettes et du double de timbales de cuivre bordé de rouge frappé en rythme par des cavaliers. Mélange de réguliers théariens et de défenseurs de la pierre, les cavaliers de Nale Sehan suivaient cette avant-garde. Venaient ensuite les seigneurs kerianiens, avec leurs fanions dans le dos et leurs vassaux sur les talons, puis une poignée d'officiers andoriens. Chacun avec un étendard qui arborait une main rouge, une épée et un numéro, les régiments et les escadrons formaient le gros de la colonne. Pour éviter les disputes, Matt avait fait tirer au sort les numéros. Le mélange des forces qui en avait résulté avait soulevé du mécontentement, et pas qu'un peu pour être franc. À l'origine, tous les cavaliers du Kairien suivaient Talmanès, alors que les Théariens avançaient derrière Nale Sehan. Pour les fantassins, en revanche, c'était un beau désordre depuis le début. La décision de conférer la même taille à chaque unité avait également donné lieu à des contestations, ainsi que les chiffres figurant sur les fanions. Jusque-là, les capitaines et les seigneurs avaient toujours rassemblé tous les hommes qui voulaient se rallier à eux. Ainsi, on parlait des forces des Dorion, de Mérécine ou d'Alandrin. Cette tradition n'était d'ailleurs pas morte. Par exemple, les 500 soldats des Dorion, au lieu d'adopter le nom de premier escadron, continuaient à se nommer les marteaux des Dorion. Mais Matt avait réussi à faire entrer dans la tête de ces types qu'ils appartenaient tous à la compagnie, quelle que soit leur nation d'origine. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avaient bien entendu le droit de partir. Eh bien, pas un seul homme ne l'avait fait, et c'était en soi un petit miracle. Pourquoi cette loyauté? Certes, sous le commandement de Matt, ils gagnaient chaque fois, mais il y avait quand même des pertes. À un moment, leur chef avait eu quelques peines à assurer leur ravitaillement, et la solde ne tombait pas souvent le jour dit. Quant au butin, mieux valait l'oublier. Jusque-là, personne n'avait aperçu l'ombre d'une pièce, et ça ne risquait guère de changer. Bref, incompréhensible cette ferveur à suivre Matt. Le premier escadron cria des vivats promptement repris par le quatrième et le cinquième, respectivement les léopards de Carlomine et les aigles de Raymond.
Le seigneur Matrim et la victoire! Le seigneur Matrim et la victoire!
Si Matt avait une pierre sous la main, il la leur aurait jetée à la figure. Les fantassins fermaient la marche, chaque unité défilant sous un étendard arborant une pique et non une épée, et au son d'un tambour battant la cadence. 20 rangs de piquiers, suivis par 5 d'archers et d'arbalétriers. Chaque unité ayant un flûtiste ou deux, les hommes chantaient à tue-tête. Chantant toute la nuit, buvant dans la journée, nous dilapiderons nos soldes pour des filles. Puis une fois ruinés, nous partirons danser, avec le grand faucheur quelques pas de quadrille. Matt écouta la chanson jusqu'à ce qu'apparaissent les premiers cavaliers de Talmanès, puis il talonna Pépin. Inutile d'attendre les chariots de l'intendance et la file de chevaux de rechange. Avant d'arriver à Théar, des chevaux se mettraient à boiter ou mourraient de maladie dépassant de loin les compétences d'un maréchal ferrant, et un cavalier sans cheval ne valait pas tripette. Sur le fleuve, 7 petits bateaux aux voiles triangulaires, arborant une main rouge sur fond blanc, voguaient vers l'aval du fleuve à une vitesse légèrement supérieure à celle du courant. D'autres les suivraient, filant vers le sud, en s'aidant de toute la toile qu'il pourrait déployer. Quand Matt attrapa la tête de la colonne, le soleil, enfin levé, commença à réchauffer de ses rayons les collines moutonnantes et la végétation clairsemée. Pour se protéger les yeux, Matt inclina son chapeau vers l'avant. Alors que Nale Sehan portait un poing à sa bouche pour étouffer un bâillement, Daerid était avachi sur sa selle, comme s'il allait s'y endormir séance tenante. Talmanès, en revanche, se tenait bien droit, le regard vif et alerte. Matt aurait plutôt penché du côté de Daerid. Il prit sur lui et parvint à lancer, assez fort pour dominer le vacarme.
« Déploiement des éclaireurs, dès que nous serons hors de vue de la ville !»
Une alternance de forêts et de plaines attendait la colonne. Par bonheur, une piste traversait tout ça. Même si l'essentiel du trafic était fluvial, assez de caravanes et de voyageurs isolés avaient fait le chemin pour tracer une route.
« Et que quelqu'un arrête ce boucan !»«
Des éclaireurs ?»
répéta Nale Sehan.
Que la lumière brûle, mon âme. Devant nous, à 3 lieues de distance. Il ne doit pas y avoir ne serait-ce qu'un type armé d'une lance. Sauf si tu crois que les lions blancs ont cessé de fuir. Et si c'est le cas, s'ils se doutent que nous arrivons,
Ils garderont bien 20 lieues de distance entre eux et nous. »
Matt ignora la remarque.
« Aujourd'hui, je veux que nous couvrions 14 lieues. Quand nous ferons ça chaque jour, nous augmenterons la dose. »
Les nobles écarquillèrent les yeux. Les chevaux ne tiendraient pas ce rythme longtemps, et 14 lieues, sauf pour les aïels, c'était une excellente performance pour des fantassins. Mais Matt devrait jouer avec les cartes qu'on lui avait distribuées. Et c'était exactement ce qu'il comptait faire.
Je cite Comadrine. Attaquez sur des terrains où l'ennemi sera persuadé que vous ne vous risquerez pas. Si possible, en venant d'une direction imprévisible et à un moment inattendu. Défendez-vous lorsque l'ennemi supposera que vous allez battre en retraite. Et abandonnez la position quand il croira que vous êtes prêt à mourir pour ne pas céder un pouce de terrain. La clé de la victoire, c'est la surprise. Et la vitesse, c'est la clé de la surprise. Pour un soldat, c'est sa vie et son sang.
Qui est Comadrine ?
Demanda Talmanès. Matt dut se concentrer pour répondre.
Un général mort depuis longtemps. J'ai lu son livre un jour.
Il se souvenait de l'avoir lu, en tout cas. Aujourd'hui, il doutait qu'on puisse encore en trouver un exemplaire. Cela dit, il se rappelait aussi avoir rencontré Comadrine après une défaite contre lui, 600 ans avant l'avènement d'Arthur El de Faucon. Décidément, ses fichus souvenirs lui collaient au basque. Heureusement, il n'avait pas débité son discours en ancienne langue. Depuis quelque temps, il arrivait à éviter cela le plus souvent. Voyant les éclaireurs se détacher de la colonne, Matt se détendit. Conformément au plan, il jouait son rôle. Un brusque départ, comme s'il voulait filer vers le sud sans se faire remarquer, mais en brassant assez d'air pour être repéré à coup sûr. Sa maladresse le ferait passer pour un crétin, et c'était une excellente chose. Apprendre la célérité à la compagnie était une bonne idée. Filer à la vitesse du vent pouvait être un bon moyen d'éviter la bagarre. Mais cette façon d'avancer trahirait la colonne, au minimum pour tout observateur placé le long du fleuve. Sondant le ciel, Matt n'aperçut pas l'ombre d'un corbeau. Pas de pigeon non plus. Pourtant, si aucun n'était parti de Myron, il voulait bien manger son chapeau. Dans quelques jours, tout au plus, Samael apprendrait que la compagnie fonçait vers le sud. Grâce à la rumeur lancée par Rand, tout le monde penserait que l'arrivée de Matt en Théar précéderait de très peu le lancement de l'attaque contre Liliane. Aussi vite que progresse la compagnie, il lui faudrait plus d'un mois pour atteindre sa destination. Avec un peu de chance, avant que Matt soit à 40 queues du rejeté, Samael aurait été écrabouillé comme un pou pris entre deux cailloux. Oh, il verrait les choses venir. Enfin, presque toutes. Mais la danse serait bien différente de ce qu'il attendait. Car seuls Rand, Matt et Bachéré en connaissaient les pas. C'était ça, le vrai plan. Matt en sifflota d'allégresse. Pour une fois, tout allait se passer comme il l'avait prévu.